Radio Okapi.
Les informations avec Billy Yvan Lutumba. La présence de la force de l'EAC dans le Nord Kivu doit se matérialiser par un appui offensif au FRDC afin de parvenir à bouter l'ennemi hors territoire. En tout cas, la question était au centre hier des discussions entre le bureau de l'Assemblée nationale, l'état-major général des FRDC et le gouvernement. Vous suivez tout de suite Mbosso Kodia qui projette de toucher aussi le chef de l'État quant à ce. Nous parlons de la clôture du forum minier Indaba 2023 à Cape Town. Dans ce journal, la réaction des miniers participant à cette rencontre par rapport aux recommandations formulées par le chef de l'État congolais. Elle tient à la fin de l'état de siège et au remplacement de la force de l'EAC par celle de la SADC dans le Nord Kivu avec finalité débouter dehors le M23. Francine Muyumba, sénatrice congolaise, est celle que nous recevons comme invitée. Merci de rester avec nous pour découvrir d'autres faits d'actualité de chez nous. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée nationale invite le ministre de la Défense et l'état-major général à prendre des dispositions urgentes pour renforcer les troupes congolaises dans l'est de la RDC afin de barrer la route au M23. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit hier au cours d'une rencontre au Palais du Peuple qui a réuni son bureau accompagné des membres de la Commission Défense et Sécurité d'une part et le ministre de la Défense accompagné des officiers de l'état-major général d'autre part. Tout en saluant l'adhésion de la RDC à l'EAC, les deux parties ont déploré le fait que la force de l'EAC déployée au Nord Kivu ne soutient pas les FRDC sur les lignes de front, ce qui pousse le président de l'Assemblée nationale à demander au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent. Christophe Mboso Kodia Pwanga est au micro de Michel Kifindangoy.
Merci au ministre de la Défense, à l'état-major de notre force armée d'avoir répondu à notre invitation. Nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. Cependant, si dans un délai raisonnable, les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'il se complaise à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences.
Dans le Nord Kivu, 11 personnes dont 7 femmes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF hier mercredi à Kongé Pwendi. C'est un village de la localité de Abila Bakaiko dans le territoire de Beni. L'information qui a été livrée par la société civile locale est également confirmée par l'armée. La plupart des victimes ont été tuées à l'arme blanche dans leur champ vers 10 heures locales. Elle recommande à l'armée de lancer des opérations militaires dans la région pour sécuriser la population. Toujours dans cette province, 2 hauts officiers de l'armée poursuivis pour les infractions de capitulation, violation des consignes et détournement des deniers publics courent la peine de mort si la cour s'en tient au réquisitoire du ministère public. Ce réquisitoire de l'organe d'accusation intervient après près de 6 mois d'instruction de cette affaire impliquant également l'ancien commandant du secteur opérationnel Sokola 2. La défense des prévenus parle d'un montage pur et simple dans cette affaire. Le condensé de se communiquer avec Gabriel Ouamenia.
Les officiers accusés sont Ndiadia Wandiadia, du 34e régiment basé à Bunagana en groupement de Jomba, et Lobo Kamwanda Désiré, du 33-07e régiment basé à Gisiza, après une longue instruction marquée par douloureuse audience, et où l'ancien commandant du secteur opérationnel Sokola 2, le lieutenant général Peter Chirimwami, était régulièrement cité par les partis, puis convoqué à comparaître à la cour, mais sans succès. L'organe d'accusation a, à cours de l'audience tenue ce week-end, requis la peine de mort contre ces 2 officiers de l'armée. L'avocat général militaire près la cour du Nord Kivu, le colonel magistrat Kangela Ngongo, a alors de l'exposé de son réquisitoire chargé ces 2 soldats d'avoir abandonné leur position dans les secteurs de Bunagana et Gisiza pendant l'avancée des rebelles au mois de juin dernier. C'est ce qui aurait, selon toujours le colonel Kangela Ngongo, donné accès à l'ennemi à s'emparer de la cité de Bunagana. Pour les conseils des prévenus, les réquisitoires du ministère public violent gravement l'article 58 du code code pénal militaire. Maître Alexis Olenga affirme que ses clients ont reçu l'ordre du commandement du secteur de se retirer car l'ennemi avait déjà coupé la route Bunagana-Tchengerero. Rappelons que le verdict de ce procès est attendu dans un futur proche. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les magistrats et procureurs œuvrant dans l'essor du parquet général près la cour d'appel du Kouilou sont appelés à un éveil de conscience et au changement des mentalités pour un nouveau départ dans la marche du secteur de la justice dans cet essor. Cet appel est du procureur général de cette juridiction, Bernardin Niami. Il l'a lancé au cours de la première réunion annuelle tenue hier mercredi au gouvernorat du Kouilou à Bandundouville à l'attention de tous les magistrats et procureurs et autres acteurs de la justice venus de tous les coins de la province. Cela après avoir constaté quelques comportements indignes affichés par ces derniers au cours de l'année dernière. Bernardin Niami est au micro de Irène Beaumont.
Si j'ai demandé au chef d'office de venir à Bandundu assister à la première réunion des services ici, c'est parce que j'ai une conviction profonde qu'en dépit des revendications que nous enregistrons sur les terrains et au téléphone, sur des accusations des justiciables, il s'agit souvent de ce qui touche à la dignité des magistrats. Pour rencontrer ces aspirations, l'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Ce qui importe par ailleurs, c'est le changement de mentalité de tous les acteurs du secteur de la justice qui doivent, en toutes circonstances, avoir un comportement exemplaire qui inspire la confiance et le respect des citoyens. Pour clore, je vous encourage donc à persévérer dans les efforts que les uns et les autres fournissent au quotidien en vue de redorer les blasons de notre ressort dont la mission première est de garantir la loi, assurer le respect des libertés individuelles et promouvoir les droits fondamentaux. Puisse la première rencontre éveiller la conscience d'un chacun et être un nouveau départ dans la marche de notre justice.
Parlons à présent de la clôture ce jeudi 9 février de l'édition 2023 du Forum minier Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. L'un des événements était l'adresse pour la première depuis l'existence du Forum d'un président de la RDC. Du haut de la tribune de ce Forum, Félix Tshisekedi avait fustigé le fait que la RDC et son peuple ne profitent pas encore pleinement de la richesse minière dont le pays dispose. Le président Tshisekedi a ainsi invité le secteur minier africain à construire ensemble un pacte de confiance pour développer la RDC. Mais alors, comment les miniers ont accueilli ce message? Écoutez la réponse de Cyril Mutombo, directeur pays du groupe Barrick multinational qui détient en partie Kibali Gold, la plus grande mine d'or en RDC située dans la province du Haut-Uele.
C'est un réveil que le chef de l'État nous a lancé pour que nous puissions nous assurer que ces communautés, non seulement dans les environs de mines, mais au travers de la nation, puissent bénéficier partant de l'exploitation de nos mines. Non seulement les ETD qui doivent avoir le 15% de la redevance, ou les provinces qui doivent avoir leur part de la redevance, mais aussi les communautés qui bénéficient aux différents mécanismes comme le 0,3% de nos chiffres d'affaires qui constituent la dotation pour le développement. Pour ce qui est de Kibali, vous l'avez constaté, à ce jour, la contribution à l'économie de la RDC a dépassé la barre de 4,4 milliards de dollars. Ça ne dit pas que nous allons nous arrêter là. Nous tenons avec beaucoup de respect le constat du chef de l'État et je vous promets que nous allons aller dans le sens justement à ce que cette contribution du secteur, pour ce qui nous concerne en tant que Barrick, soit de plus en plus visible.
Et puis, le coordonnateur du parti Ensemble pour la République dans la province du Tanganyika dénonce l'interdiction du président du parti Moïse Katumbi et sa délégation de se rendre dans le territoire de Moba. D'après lui, le jet qui devrait les transporter ce mardi a été interdit de décoller en direction de Moba par les autorités du pays. Moïse Katumbi devrait tenir un meeting devant la population. On écoute Alexis Katempa, coordonnateur du parti Ensemble pour la République dans le Tanganyika. Il est joint depuis Moba par Paulin Munanga.
L'avion qui devrait amener d'abord l'équipe d'avance du président Moïse Katumbi, on a refusé que l'avion-là puisse décoller. Le lendemain, c'était mardi, le même scénario s'est répété et l'avion du président national Moïse Katumbi n'a pas pu survoler pour venir à Moba. Et nous sommes restés à Moba. Vraiment, la population était dans la frustration la plus grande et on a trouvé que c'est pas normal parce que c'était une interdiction. Et cette interdictions-là ne peut venir que du pouvoir en place. Et nous avons condamné formellement, parce que nous ne pouvons pas comprendre que le même système que nous avons combattu la fois passée, d'ailleurs ensemble, avec ceux-là qui sont maintenant au pouvoir aujourd'hui, qu'ils puissent répéter les mêmes méthodes. C'est marrant, c'est vraiment décevant. C'est tuer la démocratie, alors que nous sommes en train de prôner l'état de droit, un pays démocratique, ça devient vraiment un pays démocratique des noms. Donc, dans les actes, on ne traduit pas ça correctement.
En réaction, le conseiller en communication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur rejette ces allégations. Pour Pascal Ohonje, aucun service n'a interdit à Moïse Katumbi de faire le déplacement dans le territoire de Moba. On l'écoute.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a reçu cette information de la personne qui se plaint, habituée souvent à se victimiser. Aucun service n'a fait état de cette situation à son autorité. Quoi qu'il en soit, autant la Constitution de la République consacre la liberté de se mouvoir au profit de tout citoyen congolais, bien entendu, autant elle impose à tout citoyen le devoir de ne pas troubler l'ordre public. L'autorité publique locale est appelée à cet effet à veiller sur la question sécuritaire de son entité. Voilà. Nous voudrions que l'opinion comprenne définitivement que de telles allégations mal habituées par les Congolais, cette fois-ci, ne seront pas tolérées. Donc ici, comprenez que ça n'a été qu'une allégation mal avancée par le fédéral du parti Ensemble de M. Moïse Katumbi.
Un dossier réalisé par Paul Mounanga. La principale attente de la diaspora congolaise à l'opération d'enrôlement des électeurs, c'est aboutir à des élections responsables pouvant permettre à la RDC d'avoir des dirigeants qui aiment réellement leur pays. Et cet amour du pays passe notamment par l'humilité et l'honnêteté dans la gestion du trésor public. Cet avis est de Jules Monga, un Congolais vivant à Pretoria en Afrique du Sud et ancien fonctionnaire de l'État en RDC. Selon lui, la corruption, devenue un mode de vie au Congo, freine son développement et décourage certains Congolais de l'étranger à s'intéresser aux activités du pays. D'où son interpellation aux politiciens congolais. Jules Monga est au micro de Grace Amzati.
La corruption, c'est un mot qu'il faut éradiquer dans toute société. Mais c'est pas comme nous apprenons au Congo, un vice que les gens ont transformé en un mode de vie. Ici, en Afrique du Sud, par exemple, on peut dire que quelqu'un a volé 10 millions de rentes ou 20 millions de rentes, comme on reprochait au président Zuma 20 millions de rentes. C'est à peu près 1 million de dollars qu'on reproche à Zuma d'avoir volé. Pourtant, il n'a pas touché cet argent. C'est l'argent qui a été commis au renouvellement de son domicile privé dans son village de Kandla. C'est seulement 1 million quelque chose de dollars. Mais cependant, il est parti, il a quitté le pouvoir pour ça. Mais chez nous, les gens volent des centaines de millions de dollars. Ils ne sont pas inquiétés. Tout un budget qui est dilapidé. Ça nous effraie. Vous pouvez construire des estates. Vous pouvez transformer des villages en construisant des avenues. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas de la folie. Même quand Félix avait dit qu'il peut faire l'Allemagne d'Afrique, mais il peut le faire. Il rêvait parce qu'il vient de là, de l'Europe. Et c'est faisable, mon frère. Ici, on construit des buildings de 20 étages dans 5 à 6 mois. L'amour du pays exige à ce que tout ce qui est alloué à chaque service, il faut qu'il serve au maximum et que les résultats soient palpable et ça fait la fierté, même la gloire d'un peuple. C'est comme ça qu'une nation s'élève.
Actualité internationale.
Trois groupes armés du nord du Mali ayant combattu l'État central par le passé ont fusionné mercredi dans une période de crispation avec Bamako. Les trois mouvements jusqu'alors regroupés dans la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes à dominante Touareg avec une composante arabe, ont signé un document de fusion lors d'une cérémonie à Kidal, ville du nord sous leur contrôle. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov rencontre le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov s'est rendu mercredi en Mauritanie où il s'est entretenu avec son collègue Salem Oud et le président Mohamed Ould Ghazouani. Les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale dans un large éventail de domaines ainsi que des questions régionales et internationales. L'invité de Radio Okapi s'appelle Francine Muyumba et les sénatrices du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et initiatrice de la pétition exigeant la convocation de la session extraordinaire du Parlement. Pour elle, le Parlement devrait mettre fin à l'état de siège mais aussi annuler l'accord avec la force de l'EAC. La sénatrice Francine Muyumba répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Francine Muyumba, bonjour.
Bonjour Michel.
Comment analysez-vous la résurgence de l'insécurité dans la partie est du pays?
J'aimerais tout d'abord dire que le temps est en train de rétablir la vérité Et je pense que cette situation sécuritaire désastreuse, chaotique, est un grand regret pour nous tous parce que il y a des choses qu'on pouvait éviter. Malheureusement, personne ne voulait écouter. Il y avait trop d'orgueil du côté de Kinshasa. Et moi, je pense que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Nous sommes en train de payer les prix de l'orgueil. Parce que nous devons toujours faire en sorte que, malgré nos divergences, que nous soyons ensemble dès lors que notre pays est attaqué.
Vous plaidez pour la convocation d'une session extraordinaire. Votre pétition ne fait que collecter davantage de signatures. Qu'est-ce que vous comptez examiner au cours de cette session?
Écoutez, le pays, conformément à la Constitution, a des institutions. Il y a l'institution président de la République, l'institution parlement, les gouvernements, les cours et tribunaux. Et lorsque chaque institution arrive à jouer son rôle, je pense que nous pouvons tant soit peu résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, nous avons un corps dont la tête seule fonctionne. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, nous voyons, c'est l'institution, surtout président de la République, qui est au four et au moulin, parce que le Parlement est réduit au silence.
Et pensez-vous qu'une session extraordinaire de 15 jours ou 30 jours peut apporter des solutions à un problème qui n'a que trop perduré?
Tout à fait, à mon humble avis, parce que le moment que le pays est en feu, cela veut dire qu'il y a une urgence. Cela veut dire que le Parlement doit pouvoir convoquer cette session extraordinaire afin d'examiner tout ce qui se passe là-bas à l'Est. Il est temps de réorganiser les commandements au niveau de l'Est. Il n'est pas tard et je pense que nous pouvons nous ressaisir. Parce qu'en 2013, cette même armée, si je ne me trompe pas, a été à mesure, bien sûr, de mettre hors d'état de nuire le rebelle du M23. Si nous convoquons la session extraordinaire, moi, ma position est déjà claire. C'est de mettre fin à l'état de siège et aussi que le gouvernement nous apporte l'accord qu'il a signé avec la force régionale. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, cette force et ces troupes n'arrivent pas au front. Et moi, je pense que nous ne pouvons pas avoir des troupes qui ne se positionnent pas au front et qui n'aident pas nos militaires.
Qu'est-ce que vous vous proposez comme alternative très concrètement à l'état des sièges?
Comme vous le savez, rentrant à la Constitution, l'état des sièges est une période spéciale. Ce sont des mesures exceptionnelles. Moi, je pense que nous devons retourner à la configuration normale, laisser les militaires aller se battre au front. Il ne faut pas ajouter aussi la gestion et l'administration et tout ça, c'est chargé, l'armée. Et je reviens toujours sur ma position concernant la SADC parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de sincérité du côté SADC. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Est, je ne pense pas du tout que cette communauté nous apportera de solutions.
Comment expliquez-vous que ce pays a déjà été aidé par une armée de la région, notamment la SADC? Là, vous aviez applaudi et ce qui est incompréhensible, c'est qu'une autre armée de la région, notamment de l'EAC, vient nous aider et vous trouvez que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui motive votre position?
Ma position est motivée du fait que dans la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est là où se trouvent les détracteurs de la République démocratique du Congo et c'est là où se trouvent les agresseurs de la République démocratique du Congo. Donc, si nous cherchons des solutions, nous ne pouvons pas aller vers celui qui est, bien entendu, à la base de la souffrance des Congolais.
La population de Goma manifeste contre cette force de EAC et au cours de ces manifestations, il y a eu des dérapages, notamment une église a été attaquée, mais aussi un convoi des casques bleus des Nations Unies. Comment analysez-vous le soulèvement de la population?
Protester, c'est un droit constitutionnel, mais il faut le faire dans la paix et éviter la violence. Je demande humblement à la population du Nord Kivu et surtout à mes frères et sœurs de Goma d'éviter de jouer au jeu de l'ennemi. Parce que l'ennemi profite de ses actes pour brandir ça partout dans le monde, pour dire que voilà ce que les Congolais sont. Et moi, je vous l'ai dit avec l'expérience après avoir servi dans les couloirs diplomatiques, et je sais comment l'ennemi joue avec nos divergences au niveau interne. J'aimerais que dans la paix, nous puissions rester ensemble, éviter d'attaquer des innocents, éviter d'attaquer des églises.
Sénatrice Francine Muyumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, M. Michel.